Le journal Thomas Cluzel.
Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Réouverture rapide des commerces et levée du confinement à la mi-décembre. Hier, Emmanuel Macron n'aura pas décrété de grand soir, mais distillé un brin d'espoir, même si la crise économique va encore s'aggraver, a tenu à préciser le chef de l'État. Le président qui aura par ailleurs lancé le débat, y compris au sein de la majorité, sur les conditions d'isolement plus contraignantes des cas positifs de Covid-19. Toujours en raison de la crise sanitaire, de très nombreuses compagnies aériennes se retrouvent aujourd'hui au bord de la faillite. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Alexandre de Juniac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, plusieurs études publiées aujourd'hui démontrent que ce fléau continue d'alimenter des drames conjugaux, mais qu'il court aussi les rues toujours et encore. À l'étranger, nous irons en Thaïlande, où plusieurs leaders du mouvement pro-démocratie se retrouvent sous la menace d'une possible mise en examen pour lèse-majesté. Enfin, deux semaines après l'entrée en vigueur d'un accord de paix, synonyme de capitulation pour l'Arménie, les premiers territoires du Haut-Karabakh sont passés sous contrôle azéri. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Lundi soir, encore des images qui ont marqué avec l'évacuation d'un camp de migrants, place de la République à Paris. On va revenir sur la question des migrations plus largement avec un regard spécial porté et fait aux femmes aujourd'hui, ces damnées de la mer, avec la géographe Camille Schmoll qui sera notre invitée et l'agriculteur de la vallée de la Roya, Cédric Héroux. C'est lui qui a fait reconnaître un droit à la fraternité et contrer le délit de solidarité. Ils seront nos invités à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Après avoir félicité les Français pour avoir passé le pic de la seconde vague de l'épidémie, Emmanuel Macron allait-il leur donner enfin des perspectives à même de soulager leur morale en annonçant hier soir un allègement du confinement en trois étapes? Le président aura surtout cherché un difficile équilibre sur l'éternelle ligne de crête entre contraintes sanitaires d'un côté et préservation de l'économie de l'autre. Une stratégie des petits pas donc à l'approche des fêtes de Noël et qui verra tout d'abord la réouverture de tous les commerces dits non essentiels à partir de samedi. Les déplacements seront également permis dans un rayon étendu de 20 km et ce pendant 3 heures. En revanche, les bars et restaurants, eux, devront garder porte close au moins jusqu'au 20 janvier. La deuxième étape aura lieu, elle, le 15 décembre avec la levée du confinement sur tout le territoire, remplacée par un couvre-feu de 21h à 7h du matin, sauf pour les soirées du 24 décembre et du 31 décembre. C'est à ce moment-là notamment que les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront reprendre leurs activités. Enfin, la troisième étape aura lieu le 20 janvier à cette date. Et si l'amélioration de la situation sanitaire est confirmée, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir. Les lycées pourront à nouveau accueillir la totalité des élèves en présentiel, de même que les universités 15 jours plus tard. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Alors on le voit, le retour à la vie normale n'est pas encore pour demain, d'autant moins que la crise économique va encore s'aggraver, comme l'a rappelé le président de la République ce matin. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a d'ailleurs révélé, Marie, le montant total de l'enveloppe des aides aux quelques 200 000 entreprises fermées, 1,6 milliard d'euros.
Oui, 1,6 milliard d'euros, c'est le coût estimé par Bercy des aides pour les secteurs qui sont fermés administrativement, et cela comprend aussi l'aide renforcée qui a été annoncée hier. Avant, le plafond était donc de 10 000 euros par mois, on passerait à 100 000 euros pour répondre aux demandes des plus grosses structures. On change donc vraiment d'échelle, mais cette somme d'1,6 milliard d'euros sera couverte, nous dit Bercy, par les 20 milliards d'euros qui avaient déjà été annoncés précédemment pour 2 mois de confinement. Alors tous les établissements fermés administrativement pourront avoir accès à cette aide déplafonnée jusqu'à 100 000 euros, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, mais aussi les théâtres et les cinémas pour les 15 premiers jours de décembre au moins, s'ils peuvent rouvrir après. 1,6 milliard d'euros, c'est cependant un chiffre à minima, car ce matin sur France Inter, le ministre des Finances a promis de nouveaux soutiens pour les stations de ski dont on attend les arbitrages et pour les hôtels qui ne sont pas fermés administrativement, mais pâtissent de la baisse de la fréquentation. Et puis, il y a également de nouvelles attentes formulées encore ce matin par la Confédération des PME qui demande que tous les secteurs qui dépendent de ceux qui sont fermés, notamment les grossistes en boissons, puissent bénéficier de cette nouvelle règle des 20% de chiffre d'affaires plafonné à 100 000 euros.
Et puis au moment où la crise fait exploser la dette publique, eh bien le débat monte à présent, Marie, sur la manière dont il faudra ou pas la rembourser.
Oui, avant ce deuxième confinement, la dette publique de la France rapportée au PIB devait atteindre 120%. Ce sera plus puisque confinement oblige, le produit intérieur brut va être moins élevé que prévu. Alors depuis le printemps, des économistes préconisent un allègement d'une partie de la dette, celle qu'a achetée la Banque Centrale Européenne sur les marchés financiers depuis 2015. Cela permettrait, disent-ils, d'alléger le fardeau de 500 milliards sur les 2000 milliards de dettes de la France et d'éviter ainsi le retour de l'austérité. Mais le ministre des Finances a redit son opposition totale à cette option. Il estime qu'on peut rembourser cette dette sur 20 ans grâce à la croissance, puisque plus de croissance, cela réduit le taux d'endettement, grâce à des réformes de fonds, il a reparlé comme il le fait à chaque fois sur ce sujet des retraites, et grâce à la maîtrise des dépenses publiques, pas tout de suite, mais alors quand ? Pour le moment, il n'en est pas question, l'heure est bien encore aux dépenses à foison.
Merci Marie Viennot, et je précise, puisque nous évoquions Bruno Le Maire, que le ministre de l'économie s'est dit ce matin favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël, avant de préciser qu'il faudrait en discuter avec les organisations salariales. Alors si les commerces ont eu gain de cause et pourront rouvrir dès samedi, en revanche, le cœur n'est pas à la fête chez les hôteliers et restaurateurs. Quant aux professionnels du monde de la culture, meurtris jusque-là d'avoir été ostensiblement ignorés et puis encore considérés comme non essentiels, ils se réjouissent évidemment de la possible réouverture des théâtres et cinémas à compter du 15 décembre, même si en l'occurrence, le couvre-feu entre 21h et 7h du matin, tout comme le système d'horodatage pour permettre des représentations en fin de journée, en laisse certains perplexes. C'est le cas de Benoît Lavigne, directeur du centre culturel Le Lucernaire, dans le 6e arrondissement de la capitale, qui comprend un théâtre mais aussi un cinéma d'art et d'essai, une librairie, un bar et un restaurant.
21h, c'est extrêmement tôt, ça veut dire que pour les théâtres, ça va nous obliger à faire un spectacle à 19h uniquement, très compliqué, et voir si c'est jouable ou pas, tout simplement, si économiquement c'est jouable ou pas, d'ouvrir, de remettre les gens au travail, de relancer des productions, de refaire de la communication, de réinvestir, en sachant qu'on va jouer peut-être un seul spectacle par soir. Un lieu comme le Lucernaire, il repose sur l'ensemble de ses activités, dont le restaurant et le bar. C'est pareil pour le cinéma, pareil pour la librairie. Donc, à partir du moment où ces activités-là sont impossibles, forcément, notre économie est fragilisée. C'est pour ça qu'il va falloir avoir plus de précision exactement sur ce fameux mot « horodatage » qui est sorti du chapeau et qui est tout à fait nouveau pour le monde de la culture. Est-ce qu'on va pouvoir jouer des spectacles à 21h ou est-ce qu'on va être contraint par le couvre-feu de fermer nos établissements à 21h et que cet horodatage ne soit en fait que ce qu'on avait demandé à une époque, c'est-à-dire une possibilité pour les spectateurs, sur présentation du billet, de montrer que donc s'ils rentrent chez eux à 21h15 ou 21h20, ils ne sont pas pénalisables.
Voilà Benoît Lavigne, directeur du centre culturel Lucernaire. Elle répondait à Benoît Grossin. Toujours dans son intervention télévisée hier soir, le chef de l'État a par ailleurs annoncé plusieurs outils ou mesures pour mieux maîtriser l'épidémie. Le dispositif de test devrait permettre d'obtenir des résultats en 24 heures maximum à partir du mois de janvier. S'agissant de la vaccination, Emmanuel Macron espère qu'elle commencera fin décembre pour les personnes les plus fragiles. En revanche, le président a tenu à insister sur le fait que la vaccination ne sera pas rendue obligatoire. Jamais encore l'exécutif ne s'était exprimé aussi clairement sur le sujet. Enfin, un débat démocratique pourrait avoir lieu sur l'isolement de façon plus contraignante des personnes contaminées par le coronavirus, étant entendu, Rosalie Lafarge, que cette idée divise et jusque dans le camp présidentiel.
Chacun s'accorde à dire que le tester, tracer, isoler ne fonctionne pas franchement très bien aujourd'hui. Alors réfléchir à la stratégie, oui. Trouver de nouvelles façons d'agir et de casser les chaînes de contamination, oui aussi. En débattre au Parlement, évidemment. Mais la contrainte, pas sûr que ce soit la solution, selon Roland Lescure, porte-parole de La République En Marche.
Je suis partagé, je suis pas convaincu, effectivement, que les Français sont prêts à ça. Et du coup, le remède risque d'être pire que le mal. En plus, on a quand même un sujet qui est le respect du secret médical, qui lui aussi est évidemment très important pour les Françaises et les Français. Donc ayons ce débat, j'y suis ouvert, mais un peu sceptique sur l'acceptabilité de la contrainte par les Françaises et les Français.
Plus que sceptique, le député de la Vienne, Sacha Houlier, rejette, lui, l'idée d'une contrainte.
Ce débat, il a déjà eu lieu entre nous, de façon officieuse, au mois d'avril dernier, et nous avions écarté cette solution. Je suis défavorable à cette hypothèse de contrainte forcée à l'isolement. Je ne suis pas favorable philosophiquement, je ne suis pas favorable par rapport à la période dans laquelle nous sommes, et je ne suis pas favorable par cohérence par rapport à la responsabilité individuelle que nous avons appelée chez chacun des Français.
Une responsabilité pour laquelle plaide aussi le marcheur élu de l'Hérault, Patrick Vignal.
Il serait temps que chacun prenne sa part. De toute façon, on ne peut pas imposer en France, mais je pense qu'on doit avoir une prise de conscience collective, et nous le devons aujourd'hui à tous ces gens qui se sacrifient leurs vacances, leurs congés, le stress que sont les soignants, nous leur devons.
Le débat promet d'être un peu animé dans l'hémicycle et il pourrait avoir lieu assez rapidement puisque le groupe Agir, partenaire de la majorité présidentielle, dépose aujourd'hui une proposition de loi en partie consacrée justement à cette question de l'isolement.
Le géant de l'informatique américain IBM envisage de supprimer de 1180 à 1385 postes, soit environ un quart des effectifs en France, dans le cadre d'un bien mal nommé plan de sauvegarde de l'emploi d'une ampleur inégalée qui devrait être présenté officiellement aux organisations syndicales le 16 décembre prochain. Conséquence toujours et encore de la crise sanitaire. Les compagnies aériennes sont en grande partie au bord de la faillite. 80% de la flotte mondiale reste aujourd'hui clouée au sol. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Alexandre de Juniac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-il possible pour commencer peut-être d'évaluer d'ores et déjà les pertes pour les compagnies aériennes d'ici la fin de l'année ?
Oui, nous avons fait une évaluation pour l'ensemble du secteur mondialement. C'est 132 milliards de pertes que nous attendons pour l'année 2020. Et nous avons aussi une estimation pour l'année 2021 qui est légèrement en dessous de 40 milliards de dollars. Donc ce sont des chiffres faramineux, comme vous voyez.
Je le disais, les compagnies aériennes sont en grande partie au bord de la faillite. Des dizaines de milliers de postes ont d'ores et déjà été supprimés à travers le monde. Elles survivent en l'occurrence et jusqu'à présent grâce aux aides des États. Ne craignez-vous pas qu'une partie d'entre elles disparaissent à terme, faute de liquidité? Vous venez d'ailleurs, je crois, d'indiquer qu'elles allaient encore avoir besoin d'aide gouvernementale pour un montant d'au moins 80 milliards de dollars.
Oui, alors ce que nous avons dit, c'est que la situation de trésorerie des compagnies aériennes en moyenne dans le monde était qu'elles avaient encore 8 mois de trésorerie devant elles. Mais comme, évidemment, la situation ne s'améliore pas, puisque les mesures de restriction aux frontières ou de quarantaine bloquent la reprise du trafic, les besoins de trésorerie sont encore immenses. Donc, nous avons estimé aussi qu'après les 160 milliards déjà injectés par les gouvernements dans le secteur, celui-ci avait encore besoin de 70 à 80 milliards sur les, disons, 8 à 10 prochains mois pour passer le cap. Alors, on est bien conscient de l'énormité des chiffres, hein, mais c'est aussi... ce que nous pensons, c'est que c'est la reconnaissance qui a été faite par les gouvernements déjà, et pour lequel on est très très reconnaissant, c'est la reconnaissance de l'importance du secteur, le caractère absolument clé pour la reprise économique, d'une part, et d'autre part, c'est l'importance de la... des fonds dépensés font que ce serait quand même dommage de ne pas continuer à investir dans le secteur pour qu'il passe ce cap très très difficile. Sinon, on aurait gâché tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici. Je pense que ce serait de mauvaise politique et de mauvais emploi des fonds publics. Et
monsieur de Juniac, avec les différentes annonces des laboratoires sur de possibles vaccins, le trafic peut-il repartir plus vite que prévu ?
Oui, c'est-à-dire que le vaccin est une très bonne nouvelle, évidemment. Bon, on n'est pas encore totalement fixé sur la manière dont il va se déployer dans le monde, parce que vous voyez bien que si on veut qu'une proportion importante de la population soit vaccinée dans le monde, ce sont des milliards de doses qu'il va falloir produire, distribuer, amener sur les lieux de vaccination. Donc, ça prendra du temps, probablement un an. Nos hypothèses, c'est que le vaccin soit disponible de manière assez massive, mi-2021. C'est à partir de là qu'on a bâti toutes nos hypothèses. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas attendre ça pour réouvrir les frontières. Mais comme nous comprenons le souci des gouvernements de protéger les populations, ce qu'on a proposé depuis deux mois, et on essaie de convaincre, avec difficulté, mais ça avance, c'est qu'on teste systématiquement tous les passagers au départ ou à l'arrivée, pour éviter que les gouvernements des pays qui accueillent ces passagers n'aient une crainte légitime qu'on réimporte le virus.
En cas de vaccination, est-ce que cette vaccination devrait être rendue obligatoire pour prendre les avions?
Alors, il y a une compagnie qui a annoncé qu'elle demanderait à ses passagers internationaux.
Une australienne, je crois.
Oui, d'être tous vaccinés. Pour l'instant, nous pensons que c'est prématuré de demander ça. En plus, ça peut poser quelques difficultés avec les pays dans lesquels ni la vaccination est obligatoire et on trouve une partie importante de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Donc, nous sommes plus prudents. Ce que nous recommandons, c'est le test systématique de tous les passagers, de manière à garantir que, en gros, les passagers qui volent ne sont pas infectés ou que le risque qu'ils soient infectés est tellement petit que pour les États qui les reçoivent, ils puissent avoir une certaine garantie de maintenir la pandémie sous contrôle et que le flux arrivant des passagers ne les mette pas dans une situation où la pandémie serait hors de contrôle. Et ça, bon, la technologie des tests le permet maintenant. C'est assez nouveau d'ailleurs, hein, mais c'est puisque ça date du mois d'octobre. Ça explique pourquoi on veut tester tous les passagers.
Voilà. On aura bien compris. Merci Alexandre de Juniac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, d'avoir répondu à notre invitation. Un an après la conclusion du Grenelle contre les violences conjugales, où en est-on de ce fléau? Une enquête publiée cette semaine révèle que plus d'une femme sur trois récemment séparées indique avoir subi des violences dans les 12 derniers mois ou quand les agressions se poursuivent, donc y compris après une séparation. Par ailleurs, et dans l'espace public cette fois-ci, eh bien, les agressions sexuelles comme le harcèlement de rue s'affichent dans des proportions alarmantes. Les précisions de Laura Dulieu.
Les jeunes femmes sont encore plus nombreuses à être victimes de harcèlement dans l'espace public. Selon une enquête réalisée par le média féministe Les Glorieuses, 99% des femmes de 14 à 24 ans ont déjà été ciblées par un regard insistant, 86% par des insultes à connotation sexuelle et 3 femmes sur 4 ont déjà été suivies dans la rue. Et cela va plus loin, selon Rebecca Amselem, fondatrice des Glorieuses.
Quand on parle de harcèlement de rue, c'est pas que un regard déplacé, c'est pas que une personne qui nous suit dans la rue, même si c'est déjà beaucoup. C'est en fait une peur qui s'installe dans notre inconscient depuis qu'on est jeune. Et en fait, cette peur, elle va nous suivre toute notre vie, elle va dicter nos actes, et elle va dicter au final notre place dans la société. Et
effectivement, si l'on regarde cette fois l'étude publiée par l'Institut Paris Région sur les spécificités des violences à l'égard des femmes, eh bien les femmes sont sans surprise davantage victimes d'agressions que les hommes en Ile-de-France, mais surtout, elles les craignent plus. 65% d'entre elles se sentaient en insécurité en 2017. Hélène Hurtel, chargée d'études statistiques à l'Institut Paris Région.
Certes, les femmes sont plus victimes que les hommes dans les transports en commun. Mais ce qui interpelle aussi beaucoup, c'est l'ampleur du sentiment d'insécurité dont elles font part dans les transports en commun, qui est largement, on va dire, plus répandu que le risque réel d'être victime.
Il n'empêche que les chiffres restent éloquents. Toujours selon l'Institut Paris Région, 32% des agressions de femmes en Ile-de-France ont lieu dans l'espace public, 31% dans les transports en commun.
Au Bélarus, tandis que l'opposition continue de réclamer la démission d'Alexandre Loukachenko, réélu pour un 6e mandat malgré des accusations de fraude massive, le président autocrate acculé ne semble plus avoir d'autre choix pour conserver son fauteuil que d'accepter la main tendue de Moscou, dont il se méfiait pourtant naguère, l'accusant même de vouloir vassaliser son pays. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est attendu à Minsk aujourd'hui. Conformément aux termes de l'accord trilatéral signé sous le patronage de la Russie, justement, rappelant ainsi le rôle déterminant de Moscou dans son précaré caucasien cette fois-ci. L'armée azerbaïdjanaise a récupéré cette nuit le contrôle du district de Karvachar, soit la deuxième des 3 rétrocessions auxquelles l'Arménie doit procéder avant le 1er décembre. Sauf que déjà sur place, les Arméniens locaux, eux, n'ont pas attendu l'arrivée des forces de Bakou pour fuir, tout en prenant soin de ne surtout rien laisser à l'adversaire victorieux. Quand certains ont mis le feu à leur maison pour n'en laisser que des ruines, d'autres ont abattu leur bétail, scié les arbres fruitiers, parfois même déterré leurs morts et emporté les cercueils de crainte que leur cimetière ne soit profané. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Bastien Bory.
Une épaisse brume automnale enveloppe le Karvachar. De part et d'autre de cette vallée rocailleuse, les maisons abandonnées aux flammes ploient, puis se couchent à flanc de montagne, sous les yeux d'habitants toujours en armes.
Faites ce que vous voulez. Nous, on reste ici. Et les Azéris, on va bien les accueillir.
Dans quelques heures, ces Arméniens se retrouveront en Azerbaïdjan. Nous les quittons, sans savoir ce qui leur arrivera. Plus loin, des véhicules de la Croix-Rouge internationale passent devant un homme qui tentait de les arrêter. Zorahir est sans nouvelles de son fils parti au front.
Je l'ai eu au téléphone le premier jour de la guerre et depuis plus rien. Il venait de terminer ses études et il allait se marier.
Parmi les parents des centaines de disparus, certains viennent prier entre les murs dénudés du monastère de Dadivank. Fresques, bibles, cloches, tout a été retiré de cet édifice où résonne l'écho du doudouk arménien. Nous reconnaissons le prêtre des lieux.
Je resterai ici parce que c'est la volonté de Dieu et les Russes m'aideront à protéger cette terre sacrée.
D'autres s'en vont. Ceux-là préfèrent ne pas être conduits par le déni.
Personne ne voulait de cette guerre, mais maintenant c'est fini. On doit se réconcilier avec les Azéris. En Europe, les gens s'entretuaient il n'y a pas si longtemps. Alors, la paix est possible.
Sur sa route, Tigrane croisera peut-être d'autres réfugiés en sens inverse. 100 000 étaient partis, 4 000 sont déjà de retour, au bon vouloir des Russes.
En Éthiopie, l'opération militaire lancée dans la région rebelle du Tigré était censée être rapide et limitée. Or, 3 semaines après le début des hostilités, la réalité est tout autre. Au point que le conflit menace à présent la cohésion même du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Les affrontements entre l'armée et les forces dissidentes ont déjà fait des centaines de morts et provoqué le déplacement de plus de 40 000 réfugiés vers le Soudan voisin. Alors hier, au deuxième jour de l'ultimatum donné par le Premier ministre aux dirigeants de la région séparatiste pour se rendre, les appels à la médiation et à la protection des populations civiles se sont faits plus pressants. Reste que la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est achevée sans déclaration commune. Et voilà pourquoi les déclarations du Premier ministre éthiopien ce matin encore, rejetant toute interférence dans ses affaires internes, laissent craindre le pire, en particulier dans la perspective d'un assaut contre la capitale de la région qui compte 1,5 million d'habitants. La liberté de conscience sur le banc des accusés en Algérie, c'est aujourd'hui en effet qu'est attendu le verdict dans le procès en appel de Yassine Mebarki, condamné à 10 ans de prison pour offense à l'islam. Face au juge, le militant engagé dans le mouvement de protestation anti-régime, mais aussi la pleine reconnaissance de la culture et de l'identité berbère, a notamment argué lutter contre le radicalisme religieux et non dénigrer l'islam. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
On attend toujours le verdict donc de ce procès en appel, mais d'ores et déjà, Bertrand, les soutiens de Yassine Mebarki fustigent un procès politique.
Oui, en première instance, les juges algériens avaient été au-delà des réquisitions du procureur qui n'avait demandé, si l'on peut dire, que 8 ans de prison ferme à l'encontre de Yassine Mebarki. Cette fois en appel, le procureur a réclamé la confirmation de la peine de 10 ans d'emprisonnement. Une affaire révélatrice de la situation politique en Algérie. Elle confirme d'abord la volonté du pouvoir algérien de briser le Irak, le mouvement de révolte populaire, dont les autorités prétendent en même temps avoir entendu le message. Dans le cas de Yassine Mebarki, c'est aussi un signal de fermeté contre un militant berbère qui revendique l'identité de cette communauté ethnique répartie dans plusieurs territoires et regardée avec méfiance par les autorités algériennes. Il y a enfin, et ce n'est pas le moindre sujet, la question religieuse. L'islamisation politique en Algérie se confirme. La nouvelle constitution, approuvée par un référendum auquel seul un quart des Algériens a participé, ne mentionne plus la liberté de conscience. L'islam est plus que jamais un sujet tabou et la loi algérienne prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour toute atteinte à la religion, une menace utilisée sans ménagement contre les opposants dans un pays en pleine expectative. Le président Abdelmajid Tebboune, soigné en Allemagne et dont on ignore l'état de santé, est absent depuis un mois.
Merci Bertrand Galichet. Un espoir soudain, sans bornes et contagieux. C'était il y a 10 ans, le monde arabe allait vivre une série de révoltes populaires improbables, référencées dans les livres d'histoire sous le nom de Printemps arabe, un événement historique qui aura conduit à des résultats disparates et le plus souvent décevants. À ce titre, la tombe du Printemps arabe restera sans nul doute la Syrie où les manifestations pro-démocratie ont mué en un impitoyable conflit, une guerre civile doublée d'un conflit régional. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui. Il devrait notamment y être question de la présence des forces pro-iraniennes. Cette nuit, au moins 8 combattants étrangers rattachés à des milices proches de Téhéran ont été tués dans un nouveau raid aérien mené par Israël en territoire syrien. En Thaïlande, au moins 12 leaders du mouvement pro-démocratie risquent d'être mis en examen pour lèse-majesté. Une première depuis le début de la contestation. Voilà 4 mois maintenant que les slogans contre la monarchie intouchable il y a peu prolifèrent dans le royaume, ou quand la tension monte à Bangkok alors qu'un nouveau rassemblement est prévu aujourd'hui pour dénoncer l'opacité de la gigantesque fortune royale. C'est une correspondance à Bangkok signée Carole Issou.
Autour d'un gratte-ciel scintillant, ils se sont donné rendez-vous, les étudiants et ceux de plus en plus nombreux dans les autres générations qui les soutiennent. L'ambiance est festive, créative. Ici, une fausse cérémonie funèbre pour le Premier ministre animée par un vrai moine. Là, des produits dérivés à la gloire du nouveau symbole du mouvement, le canard en plastique jaune, à la fois mascotte et parapluie contre les salves des canons à eau de la police. Mais s'ils ont choisi aujourd'hui le siège de la banque commerciale de Siam, ce n'est pas un hasard, comme nous l'explique cette manifestante.
On sait très bien qui contrôle cette banque, donc on voulait montrer que la revendication la plus importante de notre mouvement, c'est que la monarchie s'exerce dans le cadre de la loi et de la Constitution. Personne n'est au-dessus des lois, pas même le roi. On ne peut plus accepter que des gens aillent en prison ou disparaissent sans même un procès.
C'est l'occasion aussi de mettre l'accent sur la question des finances royales. Une fortune estimée à près de 40 milliards d'euros que les manifestants souhaiteraient voir passer sous le contrôle du ministère des Finances. Beaucoup considèrent qu'une partie de cet argent public devrait être utilisée à des fins de politique sociale dans un pays où la crise sanitaire et l'arrêt du tourisme ont plongé une partie de la population dans l'extrême pauvreté.
On termine ce journal avec un mot du temps pour cet après-midi. Majoritairement ensoleillé, excepté sur la Bretagne, le Nord-Ouest et le Languedoc. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12 heures passées de 57 minutes sur France Culture, l'heure de vous retrouver Olivia Gesbert pour la grande table des idées.
Et merci beaucoup Thomas Cluzel, on est ensemble jusqu'à 13h30. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, migrants des damnés de la mer aux damnés de la terre. Une crise continue, celle de l'exil, qui pose sans fin des questions morales et politiques, comme celle de l'accueil, de l'intégration et de la protection des personnes vulnérables. Dans le cadre de cette journée mondiale contre les violences faites aux femmes, nous souhaitions aujourd'hui porter une attention particulière sur la situation des femmes dans la migration, à partir du travail mené par une chercheuse, la géographe Camille Schmoll, cofondatrice du groupe international d'experts sur les migrations, auteure de Les damnés de la mer, EES, les damnés, Femmes et frontières en Méditerranée, qui paraît à la découverte. Un livre enquête dans lequel elle a pris le parti de féminiser le regard pour changer notre approche des flux migratoires. Bonjour Camille Schmoll.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes rejointe dans la discussion, mais à distance, par l'agriculteur Cédric Héroux, installé dans sa vallée, la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Il plaide depuis 4 ans sans relâche, au quotidien, pour l'aide et l'accueil aux étrangers en situation irrégulière. Un combat, un engagement qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître, Change ton monde, c'est au lien qui libère. Bonjour Cédric Héroux.
Bonjour.
Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Vous êtes au fond de votre jardin, connecté à nous.
Ouais, je suis sur le point de montagne, l'endroit où ça capte le mieux, et je suis sous un soleil radieux, dans le calme depuis la tempête Alex qui nous a
ravagé,
éloigné du monde.
Comment ravagé, va votre, ouais, ouais, comment va votre vallée? Est-ce qu'elle se relève doucement?
Doucement, mais on est habitué un peu aux galères de la vie, donc on s'y fait, on s'y adapte, et après c'est toujours compliqué, en fait, on se retrouve de plus en plus éloigné de par différents villages. Il y a des villages qui sont toujours complètement bloqués du monde, hein, comme Tende, Saint-Dalbaz de Tende, et bon, c'est toujours compliqué, quoi, mais on s'adapte, quoi.
On va être à trois points géographiques différents avec vous deux, Cédric Héroux, Camille Schmoll et avec la cinéaste Claire Denis qui était avec nous dans la première partie de l'émission et qui est restée à trois points géographiques différents au cœur de la Méditerranée, dans cette vallée de la Roya. Et on va commencer par Paris. Après la fermeture d'un camp de migrants à Saint-Denis, un camp de fortune a été monté place de la République pour attirer l'attention sur les conditions des personnes sans domicile, sans toit, sans protection. Ce camp, il a été évacué sur ordre du préfet de Paris lundi soir, manu militari et dans un dispositif extrêmement musclé. On y revient.
Aussitôt installé, aussitôt évacué, les forces de l'ordre enlèvent les tentes, les retournent. Parfois avec des exilés encore à l'intérieur et sous les huées des migrants et des militants. Une évacuation musclée entraînant des scènes de violence. Une mêlée géante au cœur de la capitale. Et c'est finalement sous les tirs de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement que les exilés sont dispersés par les forces de l'ordre. Ce député de la France insoumise, malmené, est exaspéré.
La seule réponse qu'on donne à des centaines de personnes qui, en plus dans le temps de Covid, n'ont pas d'abri, ne sont pas mises à l'abri, c'est la police. Et ça, c'est plus supportable. Il faut mettre à l'abri ces quelques centaines de personnes qui, depuis l'autre jour, ont été laissées à la rue et malheureusement soumis à certaines violences policières.
Camille Schmoll, que nous disent ces images, que nous dit cet événement ?
Du point de vue des personnes exilées, ce que ça nous dit, c'est que ces personnes passent des mois, des années en circulation. Et cet dernier événement, en fait, ce n'est que finalement la suite, la continuité d'un certain nombre d'événements qui se sont produits précédemment. On peut penser effectivement à l'évacuation du camp de Saint-Denis la semaine dernière, mais ça nous rappelle aussi les images du démantèlement du camp de Calais en 2016. Et donc, il faut l'inscrire dans la continuité de tous ces moments où on fait circuler les personnes pour ne pas les voir, en fait, pour les cacher. Loin des yeux, loin du cœur.
Cette violente évacuation de ce camp de migrants à Paris, posée là, symboliquement aussi, place de la République, pour attirer l'attention à la fois des médias, de la population et bien sûr des pouvoirs publics sur la situation de ces personnes, une centaine de réfugiés qui étaient là et qui n'ont pas d'endroit où se loger, qui n'ont pas d'endroit où être accueillis. Elle pose question. Ces images, elles ont beaucoup tourné, Claire Denis. On pense à l'appel qui a été lancé par la Société des réalisateurs dans Libération, celle des cinéastes qui revendiquent ce droit des citoyens d'opposer leurs images à celles de l'État. Appel lancé dans le cadre de la discussion à l'Assemblée nationale de l'article 24 du projet de loi Sécurité globale qui entend pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers. Alors ce texte, il a été adopté hier soir en première lecture à l'Assemblée nationale. Il va maintenant circuler. Ce démantèlement-là, à Paris, place de la République, lundi soir, il a été médiatique et médiatisé. On a besoin de ces images, on a besoin d'images pour comprendre ce qui se joue.
Déjà, j'ai toujours un petit problème quand on me dit qu'on a besoin d'images. Je crois qu'on doit, si on est là, faire des images, filmer, informer, bien sûr. Mais c'est pas le droit d'image, c'est au-delà de ça, c'est le droit d'être là, de voir déjà. Moi, j'avais pas de quoi filmer quand je suis allée à la République l'autre soir. Mais je voyais que dans les tentes, il y avait des jeunes gens qui étaient perdus. Ils étaient presque comme des figurants dans un film à qui tout d'un coup, les coups allaient pleuvoir sur eux et ils allaient devoir repartir ailleurs. J'avais l'impression qu'il y avait l'image de ces jeunes gens que je voyais dans l'ouverture des tentes et l'image de la violence autour. Et le droit à l'image, c'est le droit à la vérité, le droit, pour moi, c'est quelque chose qui doit être vu, entendu, reconnu, et je sais pas, j'essaye de comprendre l'article 24, je comprends qu'il faut pas mettre en danger des policiers.